six enseignements. La dernière fois, on a été obligé de rajouter un autre week-end studieux. Et à vrai dire, le thème que j'avais abordé sur la fin des âges, pas la fin du monde. Les témoins de Jéhovah utilisent cette expression. Mais ça n'est pas biblique. C'est la fin des âges, la fin de certaines périodes. Et à vrai dire, je ne l'ai même pas encore fini. Donc, on est en train de me dire quand. Bon, je vais voir. Mais il y aura certainement un autre week-end studieux. Ici, je ne sais pas combien d'heures il y aura. Je ne sais pas si 3 au moins, ça c'est certain. Est-ce qu'il y en aura 4, 5, 6, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en aura 10, 12, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est juste une façon de penser qui est différente. Une façon, donc on verra. Mais en tout cas, le message là va certainement dans le sens de ce week-end, va au moins l'aborder. Et ce week-end là, eh bien, moi j'aimerais encourager, Pasteur Marc l'a dit, toutes les personnes, tous les jeunes à venir et à écouter la parole de Dieu. Et on n'est pas trop jeunes pour cela. Bon, évidemment, Anna et Zoé, je dirais un peu quand même, hein. Voilà. Mais pour les jeunes que je vois ici, hein, Léo et Elliot, ben non, ils sont pas trop jeunes. Et non, ils sont pas trop jeunes. Quelquefois, on a tendance à penser que les jeunes sont une sous-catégorie dans le royaume de Dieu. Mais il faut se rappeler que et c'est Élisée qui a grandi dans le temple, hein. Élie qui a grandi dans le temple au pied du prophète Samuel. On sait que l'apôtre Paul, lui, a été enseigné par un grand rabbin, Gamaliel. Mais il n'a pas été enseigné quand il avait 17 ans. C'est tout jeune que ça commence, hein. Donc si un enfant, eh bien, on estime qu'à la maison, on l'éduque, eh bien, à l'église, on l'éduque, hein. Et normalement, on complète ce que les parents donnent dans le Seigneur. Alors, il se trouve que je n'ai pas envoyé la liste, mais je suis sûre qu'ils vont suivre. Regardez avec moi dans Nombre, chapitre 23. D'abord, on va voir une contradiction ensemble. Oui. Alors, Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qui a déjà entendu cette phrase-là? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ouais, Dieu ne ment pas. S'il dit t'es guéri, dit t'es guéri. S'il dit tu as tout en Christ, tu as tout en Christ. S'il dit que tu vas au ciel quand tu pars parce que tu as accepté le Seigneur, tu vas au ciel, point barre. Dieu ne ment pas. Ce qu'il t'a dit pour ton futur, Dieu ne ment pas. Et en plus, il est dit, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Alors dans ces cas-là, expliquez-moi comment comprendre Exode chapitre 32. Certains ont déjà quelques versets qui viennent, hein. Mais chapitre 32, dans Exode, alors là c'est avec Moïse, les Hébreux sont sortis d'Égypte, et puis alors ils sont passés par toutes sortes de détours, et ils ont fini par faire un veau d'or pour adorer le Seigneur, et là vraiment le Seigneur est en colère. Et il dit à partir du chapitre 32, verset 11, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir ? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et le plus fort, c'est qu'au verset 14, il est dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Genèse chapitre 6, versets 1 à 6. Et là, il y a un silence digne du ciel et j'ai votre attention. C'est parfait. Le genre d'atmosphère que veut tout prédicateur. Ici, il y a eu une association naturelle et spirituelle qui a produit des géants qui sont venus sur Terre. Et même les archéologues disent que ça, c'est vrai. Et c'était une alliance qui était démoniaque. Et il est dit au verset 4, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. » Et il fut affligé en son cœur. Premier verset dans Nombre, Dieu n'est pas un homme pour mentir et il ne se repent pas. Deuxième verset que nous voyons dans Exode, Dieu s'est repenti. Et troisième verset que l'on voit dans Genèse chapitre 6, eh bien, le Seigneur s'est repenti. Alors, il faut savoir, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. J'ai juste une question à vous poser et vous répondrez vous-même. Est-ce que l'Éternel était affligé de se repentir ou est-ce qu'il était affligé d'avoir fait l'homme? Parce que là, beaucoup lisent et ils disent « Oh ben, il a été affligé, il s'est repenti d'avoir fait l'homme ». Et cette version, c'est du style, oh ben, le Seigneur a placé l'être humain, il a placé la race humaine sur terre, et puis, Adam, tu as tout gâché, tu as péché, tu t'es séparé d'avec Dieu, tu as dit non au Seigneur, tu as dit non à sa vie, tu as dit non à la communion, résultat, l'Éternel est désolé, il regrette de t'avoir fait. Voilà ce que l'on a tendance à comprendre avec ce passage. Mais ça n'est pas ce qu'il dit. Il s'est affligé, il était triste de voir cette condition. Mais il était triste de devoir se repentir. Parce que la Bible dit qu'il s'est repenti. Maintenant, on pourrait dire, mais l'Éternel ne savait pas ce qui allait se passer. Oui, parce que l'Éternel est omniscient d'ailleurs. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu avait été préparé avant la fondation du monde, avant même que l'être humain n'arrive sur terre. Le Seigneur savait ce que l'être humain allait faire. Il le savait. Et dans son omniscience, il a déjà prévu une solution. Le Seigneur connaît les mauvais choix que nous allons faire dans la vie. Il le sait et il a déjà prévu une solution. Encore faut-il vouloir la solution. Ça, c'est une chose. Mais Dieu nous a toujours devancés. Ça ne veut pas dire qu'il approuve les mauvais choix. Ça ne veut pas dire qu'il a approuvé la décision d'Adam, la décision d'Ève. Mais en tout cas, il y a pourvu. Alors, on pourrait se dire, mais quoi, d'un côté, il se repent, de l'autre, il ne se repent pas. Mais est-ce que la Bible ment? Non. La Bible peut avoir ce qui semble être des contradictions, mais si on étudie les Écritures par les Écritures, on finit par trouver qu'il n'y a pas de contradiction. Regardez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 15. Donc, l'Éternel, si vraiment il s'était repenti, d'avoir fait l'être humain, eh ben, il ne fallait pas qu'il envoie l'agneau. C'est tout. S'il regrettait d'avoir fait l'être humain, il ne fallait pas qu'il nous envoie un sacrifice pour nous redonner une autre opportunité d'être reconnectés à Dieu. Il fallait qu'il nous laisse dans cet état de péché. Mais non, ça n'est pas d'avoir fait l'être humain qu'il était affligé. Il était affligé de se repentir. Et je sais que ça n'est pas plus clair, mais si vous gardez ce niveau de concentration, là, on va finir par comprendre. 1 Samuel chapitre 15, verset 11. Alors, il se trouve que les Hébreux ont demandé, ont eu assez de ce régime de la théocratie, c'est-à-dire que ce soit Dieu qui les dirige, Dieu qui les gouverne, Dieu qui gère leur société, Dieu qui gère leur structure en tant que peuple. Et ils ont dit, nous, on veut être comme les autres, on veut un roi. Et le Seigneur a dit, bon, moi, je veux bien vous donner un roi, mais si je vous donne un roi, alors, je vous préviens, il va dominer sur vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce roi-là, alors que Dieu est quelqu'un qui domine sur nous en fonction de notre volonté. C'est-à-dire que Dieu n'est pas quelqu'un qui s'impose. Dieu est quelqu'un qui règne dans la vie de celui qui veut bien le laisser régner. Mais il n'impose pas son règne. Et son règne est un règne d'amour. Un roi, un être humain qui est à notre tête, eh bien, il faut se dire qu'il n'est pas parfait. Donc, il va régner en fonction un peu de sa philosophie, de ses humeurs, de ses valeurs. Et il va chercher à dominer. Et le roi ici, qui a été nommé, parce que les Hébreux ont dit « Non, 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 on ne veut pas uniquement dépendre de toi. On veut être comme les autres, on veut avoir un être humain à notre tête. Et on veut le voir et on veut entendre sa voix quand on a envie. » Voilà, et Dieu a dit « D'accord. » Alors il leur a donné Saül. Et Saül, eh bien, il se trouve que a exercé un règne et a fait énormément de compromis. Et ici, 1 Samuel chapitre 15, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit ? Il dit, l'Éternel dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Le prophète a été irrité, il a prié. Maintenant, regardez le comble, c'est 1 Samuel chapitre 15, verset 29. « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. » Là, c'est carrément dans le même chapitre. « Car il n'est pas un homme pour se repentir. » Alors, vous savez ces versets. Bon, je n'ai pas entendu beaucoup de pages de la Bible donc se tourner, mais si vous avez vérifié dans votre Bible et que vous ne tenez pas compte uniquement de ce qui est à l'écran, vous savez que ce que nous avons vu ensemble est dans la Bible, vrai ou faux. Ce n'est pas simplement parce que c'est à l'écran, une version que l'on aurait traficotée comme celle de secte. Non, 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 non. Nous prenons les Écritures et nous les acceptons. Alors la question, la question c'est laquelle ? Hein ? Quelle est la question qui se présente à nous tout naturellement ? Et oui, c'est ça. Avec ou sans l'accent marseillais, on peut le faire. Sinon, à la normande, eh ben, quelquefois il se repent et quelquefois il ne se repent pas. Et ça veut dire le... Non, 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 non. Alors, vous savez, un tuyau, là, je vous l'ai déjà donné, mais il n'y aura aucun problème à le réitérer. Quand on ne comprend pas un passage de la Bible, on ne remet jamais en question la nature de Dieu. Quand quelqu'un commence à toucher à la nature de Dieu, c'est-à-dire la Bible nous dit que Dieu est juste. Dieu est juste, ça veut dire qu'il fait ce qu'il doit, mais Dieu est juste, ça veut dire qu'il est sans péché. La Bible nous dit que Dieu est bon. On sait que Dieu n'est que bon. Donc quand on ne comprend pas, eh bien, il y a des gens qui seront tentés de remettre en question la justice de Dieu, la bonté de Dieu. Et on ne peut pas faire cela, c'est la meilleure manière de mal interpréter ce qu'on lit. Donc quand il y a quelque chose que l'on lit dans les Écritures et qui semble être une contradiction, qu'on ne comprend pas tout de suite, eh bien il faut juste laisser là où nous avons trouvé ces Écritures et dire: Seigneur, je sais que ça ne change rien à ta nature. Je ne vais pas toucher, je ne vais pas remettre en question ta nature, je ne vais pas remettre en question ton caractère. Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas, éclaire-moi. Non, on ne peut pas remettre en question la nature de Dieu parce que la Bible nous enseigne que Dieu est parfaitement bon et incapable de faire le mal. Je vous le lis simplement, Jacques 1,13, « Que nul, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation vient de Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente personne. » Psaume 5, 5-6, « Dieu n'est pas un homme qui prend plaisir au mal, le méchant n'a pas sa place chez toi. » Je ne sais pas pourquoi ça ne tourne pas, mais ce n'est pas grave. « Tu ne supportes pas d'avoir des insolents devant toi, tu détestes tous ceux qui font le mal, le malheur des autres. » 3 Jean 1, jusqu'au verset 11, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien, celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Donc, la repentance dont il est question ne peut pas être une défaillance morale de Dieu. Ah ben oui. D'un côté, Dieu dit « Je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. » Or, on voit qu'il se repentit et nous sommes obligés d'accepter qu'il n'y a pas de défaillance morale de la part de Dieu. Alors, d'abord le verbe repentir, si vous n'avez pas suffisamment renouvelé vos pensées, vous devez penser que le verbe se repentir veut dire avoir des sentiments de regret. Non, le verbe repentir veut dire changer de façon de penser. C'est-à-dire, avant, j'allais dans cette direction, et tout d'un coup, il y a des événements qui m'amènent à considérer la direction que je prends, ou la vitesse à laquelle je vais, ou les moyens que j'emprunte pour aller dans cette direction. Et tout d'un coup, comme le fils prodigue, je reviens à moi-même, ou prodigue, je reviens à moi-même, je consulte le Seigneur, je me repens, et ça n'a rien à voir avec les sentiments. Se repentir, gardez la définition biblique, se repentir, ça veut simplement dire, je vais changer ma façon de penser et je vais prendre une autre direction. Donc on sait que quand il est dit que le Seigneur s'est repenti, ce n'est pas une question de regret amer, c'est une question de façon de penser, de changer de direction. Or, nous avons vu qu'il y a des fois où Dieu change de direction et en même temps, il dit, eh ben non, je ne change pas de direction. Et les deux sont vrais. Parce qu'on l'a lu dans les Écritures, les deux sont vrais. Donc cela doit vouloir parler. Non pas du fait qu'il se repente, qu'il change de direction ou pas, mais cela a à voir avec la raison ou le but à atteindre. On va y arriver, hein, je vous le dis qu'on va y arriver. Regardez avec moi, certains disent il vaut mieux, Proverbes chapitre 19. Et à vrai dire, vous allez voir que c'est très très simple. Si c'est compliqué, ça n'est pas parce que c'est compliqué en lui-même. C'est juste qu'il vous manque quelques éléments pour le rendre simple et le voir tel que Dieu le dit. Vous avez trouvé Proverbe 19, verset 21. Alors la question n'est pas est-ce que Dieu se repent ou ne se repent pas. Il a dit « Je ne me repens pas ». Et d'un côté, il s'est repenti. La question est, de quoi le Seigneur se repent-il? Sur quoi le Seigneur change-t-il sa façon de faire? Dans quelles circonstances? Parce qu'il doit y avoir des circonstances. Vous avez trouvé Proverbe Ça, c'est, il est extraordinaire, ce verset-là. Extraordinaire. Nombreux, qu'est-ce que vous avez ici? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nombreux sont les projets dans le cœur humain, mais seul le dessein du Seigneur tiendra. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Une autre version. Vous pouvez faire des plans, mais c'est le dessein de Dieu qui prévaudra. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La question, c'est d'un côté, il y a les projets de l'homme, et de l'autre, il y a le dessein de Dieu. Eh bien, il faut se poser une question. Qu'est-ce que le dessein de Dieu? Qu'est-ce que le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu, l'objectif de Dieu, le mot dessein a à voir avec conseil, le conseil qu'il a tenu avec lui-même. Le dessein de Dieu, l'objectif de Dieu est que Dieu est une famille à sa ressemblance, qui ait les mêmes droits qu'il a lui-même. Le dessein de Dieu, c'est que Christ soit premier en tout. Le dessein de Dieu, c'est que la famille de Dieu règne avec lui et Jésus. Ça, c'est le dessein de Dieu. Bien, ce dessein-là, cet objectif, ce but, le Seigneur l'avait avant la fondation du monde. Donc maintenant, vous trouvez la raison pour laquelle il y a une terre. Vous trouvez la raison pour laquelle Dieu a créé l'être humain. Si on répond à cette question, qu'est-ce que le dessein de Dieu? On trouve la raison pour laquelle on vit. On trouve la raison pour laquelle Jésus est venu. On trouve la raison pour laquelle il y a des animaux sur terre. On trouve la raison pour laquelle il y a un univers. On trouve la raison pour laquelle Dieu aime tant l'être humain. Parce que le dessein de Dieu, c'est qu'il veut une famille. Le dessein de Dieu est que ce soit une famille victorieuse, que ce soit une famille qui a été testée, que ce soit une famille qui vive avec lui par choix et non par obligation, et que ce soit une famille où Christ est premier en tout. Vous vous imaginez que pour atteindre ce dessein-là, pour cela, il a dû élaborer un plan. Hein? C'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez une maison, je ne sais pas moi, de style moderne, avec 3 étages, je ne sais pas moi, 300, 400, 500 mètres carrés, vous avez en tête un objectif, une vision, eh bien, à partir du moment où vous élaborez ce plan, ce projet, même si vous voyez le produit fini, vous n'allez pas y arriver du jour au lendemain. Et Dieu, bien qu'il soit Dieu, a aussi décidé de ne pas y arriver du jour au lendemain, parce que sinon, nous aurions été comme des robots. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un plan. Il a dit d'abord, je vais mettre Adam sur terre. Et puis, à travers Adam, je vais me susciter une famille. Et ça a commencé. Ça, c'était le plan. Mais il se trouve qu'Adam a fait un autre choix. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, sur terre, il a montré un autre aspect du plan. Et le plan, c'est que l'agneau vienne. Pour que l'agneau vienne, il a également, ce qui faisait partie de son plan, il s'est suscité un peuple, le peuple juif à travers Abraham. Et puis, il a dû, dans ce plan, le peaufiner un peu, il a dû ajouter la loi. Et du dessein d'avoir une famille, il est passé par différents, par un processus, par un plan qui amènerait Dieu à réaliser son idéal. Si bien que quand quelque chose dans le plan pour parvenir au dessein ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent. Mais il se repent de quoi? Dieu ne se repentira jamais de vouloir la famille. Dieu ne se repentira jamais de vouloir Christ premier en tout. Dieu ne se repentira jamais de vouloir sa famille qui règne avec lui. Dieu ne se repentira jamais d'avoir sa famille qui vient avec lui pour l'éternité. Mais, en attendant d'avoir cet idéal, quand un plan, on pourrait dire, foire, alors là, il se repent et il passe par un autre plan. L'idéal, c'était que Adam ait une famille et que cette famille soit en communion parfaite avec Dieu, et le dessein de Dieu aurait été accompli. Mais ça n'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu s'est repenti de son dessein? Non. Mais est-ce qu'il s'est repenti de... Est-ce qu'il a changé d'avis sur la manière d'y parvenir? Ben pour nous, les êtres humains, oui. Pour nous, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, est-ce que Dieu est quelqu'un qui change de direction? Ben, il faut savoir de quoi est-ce que l'on parle. Par exemple, si quelqu'un empêchait, quand il y a un plan, vous savez, à travers chaque génération fait partie du plan de Dieu. Chaque individu fait partie du plan de Dieu qui va amener Dieu à réaliser son dessein. Et les dons que nous avons en nous font partie de ce qui va permettre à Dieu d'accomplir son dessein. Parce que vous croyez que les dons que nous avons, vous et moi, vous croyez que quand nous allons arriver au ciel, ces dons ne serviront plus à rien? Mais ça n'a pas de sens de penser comme cela. Les dons sont pour que nous fonctionnons exactement comme le Seigneur a dit, la terre devait être un reflet du ciel. Et avec les dons qui sont en nous, eh bien nous allons continuer à fonctionner. Donc oui, au ciel, je suis persuadée qu'il y a encore des scientifiques. Les gens pensent qu'on arrive au ciel et puis on ne parle que de la Bible. Bah oui, tout est à la lumière de la Bible, mais pas que. Bien sûr qu'il y a, je suis sûre, une autre forme d'économie, etc. Mais les dons que nous avons, nous allons les utiliser. Et donc Dieu est quelqu'un qui va utiliser chaque génération, qui va utiliser chaque individu pour arriver à son dessein. Donc vous comprenez que les temps dans lesquels nous sommes, ça fait partie d'un plan. Dieu a un plan pour notre génération. Dieu a un plan pour notre pays. Dieu a un plan pour notre ville, notre région. Dieu a un plan pour notre église. Dieu a un plan pour ta famille. Et Dieu a un plan pour toi individuellement. Et tout cela permet à Dieu d'atteindre son idéal, d'atteindre son dessein. Mais tu imagines que si quelque chose dans les plans qu'il a élaborés ne va pas dans le bon sens, ben qu'est-ce qui va se passer? Il va changer. Et dans ce sens-là, il va se repentir. Par exemple, Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël ait un roi pour ressembler aux autres nations. Il se trouve qu'ils ont demandé. Dieu, dans sa miséricorde, a dit, bon, je vous en donne un. Il a donné Saül. Ben, il se trouve que Saül est quelqu'un qui, à cause de l'influence de Dieu, pouvait amener tout le peuple à passer, à empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Sa désobéissance était en train de toucher le dessein de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son plan et il a mis David à sa place. C'est-à-dire, le dessein de Dieu ne dépend pas que de moi. Et je suis invitée dans les plans de Dieu pour qu'il parvienne à ce dessein. C'est énorme. Mais je ne suis pas invitée dans les plans de Dieu en tant que pasteur. C'est nous tous, nous sommes invités dans le plan de Dieu avec les dons que nous avons. Donc, est-ce que Dieu se repent de ce qu'il... est-ce que c'est un homme qui ment? Est-ce que c'est un homme pour mentir? Est-ce qu'il se repent de son idéal? Non, jamais. Jamais. Cet idéal est éternel et est la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait sur terre. Maintenant, est-ce qu'il arrive à Dieu de devoir changer sa manière de faire? Oui, de manière à ce que son plan, son dessein soit accompli. Par exemple, Moïse. Moïse est un homme qui devait amener le peuple dans la terre promise. Et quand il a amené, il est celui qui était le libérateur du peuple d'Israël. Hein, et il devait aller avec le peuple dans la terre promise. Et on voit que le Seigneur a changé d'avis. Et il a dit non, tu ne pourras pas rentrer dans la terre promise, tu pourras juste te poster à la frontière. Et de tes yeux seulement, tu verras la terre promise. On pourrait se dire, mais pourquoi il a changé d'avis? Pourquoi? Parce que Moïse est quelqu'un qui avait frappé deux fois le rocher. On pourrait dire, bah, si tu savais combien de fois moi, j'ai peut-être claqué avec un bâton sur un rocher. La seule différence était que Moïse préfigurait Christ. Et que ce rocher préfigurait lui aussi Christ, qui allait être frappé une seule fois pour nos péchés. Et quand Moïse s'est mis en colère et qu'il a frappé deux fois le rocher parce qu'il était, il n'en pouvait plus avec ce peuple-là. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de toucher à quelque chose qui a amené vers le dessein de Dieu. Avec une influence si grande qu'il pouvait, que tout un peuple pouvait être affecté. Donc, est-ce que Dieu se repent? Eh bien, non. Pas de son objectif, pas de son idéal, pas de ce qui est final. Non, non, il veut la race humaine, il veut une famille. Donc la raison pour laquelle Dieu met des projets, et là j'avance un petit peu sur Weekend Studio, la raison pour laquelle Dieu met des projets en chacun de nous, ce sont des projets qui correspondent à des dons. Et vous comprenez que quand un être humain, eh bien, utilise les dons qu'il a et les projets qu'il a uniquement pour lui-même, ben, ça ne rentre pas dans le dessein de Dieu. Aucun chrétien, aucune personne née de nouveau, aucune personne née de nouveau peut dire, moi tu sais, je n'ai rien à voir avec le dessein de Dieu et avec les plans de Dieu. Aucun. Nous avons tous notre part. Tout ce que l'on veuille ou pas, parce qu'on est libre de dire non. Le pire, c'est que ceux qui disent, moi je veux rien avoir avec le Seigneur. Bon, c'est bon, je suis sauvé, c'est bien. Allez, on se voit au ciel quand j'y vais. Et en attendant, merci pour la bénédiction. Que font ces gens? Très souvent, ils utilisent ce que Dieu a donné pour que son dessein soit réalisé. Ils se l'approprient et courent avec. Si bien que, quand quelqu'un, par exemple, dans le plan de Dieu, pour notre génération, si moi, par exemple, j'avais refusé l'appel de Dieu, voilà, ça, dans le plan de Dieu, c'est là que je me situe. Un appel à un des cinq ministères. Je peux refuser, vous êtes d'accord avec moi. Mais il n'empêche que j'ai le don d'étudier. Je suis arrivée sur cette terre avec le don d'étudier, développé ou pas. Je suis arrivée sur cette terre avec la capacité d'exprimer ce que j'ai compris. Vrai ou pas, rassurez-moi là. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cela? J'aurais pu être prof. D'ailleurs, j'y pensais sans Christ. J'aurais pu être... chercheur, utiliser cette capacité d'étudier. J'aurais pu être interprète, maître de conférence et beaucoup d'autres choses encore parce que j'ai d'autres dons. J'aurais pu faire cela. Ou avocate, avec un peu plus de logique peut-être. Il est important que cette année, nous gardions à la pensée le fait que ce que nous sommes, ce que nous avons comme capacité, fait partie du dessein de Dieu, qui ne changera jamais. Maintenant, il est vrai que moi, si je ne voulais pas, si je n'avais pas voulu faire ma part, alors non, surtout pas, hein, j'ai déjà entendu, ah oui, Dieu appelle des femmes à prêcher parce que les hommes ne répondent pas. Alors j'espère que vous n'en êtes pas là, parce que c'est un raisonnement qui est, je ne sais pas, il n'est même pas primitif, il n'est d'aucun âge celui-là. Style la route secours, tu sais. Mais tu ne vas pas faire beaucoup de kilomètres avec, parce que je t'explique, tu ne vas pas sur l'autoroute avec une route secours. Hein. Non, aucune femme dans le ministère n'est une route secours. C'est le plan de Dieu. Mais, ceci dit, il est vrai que si quelqu'un ne veut pas utiliser sa vie pour le Seigneur, il peut se repentir. Et il changera. Il changera. Son plan, pas son dessein, mais le plan pour l'instant est le Seigneur. À travers les Écritures, on voit qu'il a déplacé des personnes comme cela de manière à... Parce que quoi que ce soit, depuis Adam, le Seigneur travaille à ce dessein. Déjà avec David, avec la génération de David, il travaillait avec ce dessein. Avec la génération de la guerre, il travaillait à son dessein. Il y avait toujours les siens qui avançaient, qui progressaient vers ce dessein. Et si le Seigneur ne revient pas dans notre génération, après nous, il continuera toujours à œuvrer vers cet idéal. Mais si vous voulez savoir où est l'accomplissement d'un être humain, c'est de comprendre sa place et de l'accepter dans le plan de Dieu avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Alors, vous comprenez que l'Église sur terre, l'Église sur, en France, l'Église sur la Côte d'Azur, l'Église à Nice, c'est pas un petit truc. C'est juste pas le petit groupe de gens bien gentillets. On a la plus grande perspective dans la société. Et c'est la raison pour laquelle on ne se laisse pas arrêter par quoi que ce soit. Les rêves que vous avez, qui vous les a donnés? Cette capacité, il y en a au milieu de nous qui ont cette capacité d'écrire. Il y en a qui ont la capacité avec les finances, les maths. Il y en a qui ont la capacité avec les langues, ce sont des gens, alors ils peuvent apprendre à parler dans n'importe quelle langue. Il y en a d'autres qui ont cette capacité de comprendre le corps humain. Là où ils se réjouissent de voir une plaie ouverte alors que d'autres tombent dans les pommes, c'est pas normal. Et tout ça participe au dessein de Dieu. Et personne, aucun chrétien né de nouveau, à vrai dire, chrétien né de nouveau ou même pas chrétien, on fait tous partie de son plan. Tous. Parce que nous sommes, la Bible nous dit que Jésus est mort pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le monde entier. C'est quand on parle de d'élection. Oh, il y en a qui sont élus, il y en a d'autres qui ne sont pas élus, il y en a qui sont appelés à être sauvés, et Dieu qui ne sont pas appelés. Ça ne tient pas la route, parce que sinon, Jésus n'avait pas à mourir pour tout le monde. Dieu aime la race humaine. Dieu aime l'être humain. Et si quelqu'un ne veut pas participer à ce grand dessein éternel, dans ces cas-là, c'est lui qui choisit et pas Dieu. Mais en tout cas, Dieu a préparé chaque être humain en investissant des dons, des talents, une manière de penser. Vous avez remarqué que les artistes, ils ne pensent pas comme les scientifiques. Est-ce qu'ils sont moins bien? Non! On a besoin de tous. Et si chacun, on met sa vie au service du grand dessein de Dieu, eh bien la Bible dit, on voit sa gloire. C'est pour ça que je veux que les jeunes soient là. Parce qu'ils sont capables de comprendre qu'ils font partie d'un tout. Donc oui, nous avons des projets. Et évidemment, ce verset nous dit, eh bien, quand nous avons des projets, consultons l'Éternel pour voir si ça fait partie du plan qui mène à son dessein. Ne partons pas avec des projets. Il y a beaucoup de projets qui semblent, ça semble tout à fait naturel, ou alors, j'ai l'âge, ou alors, peut-être j'ai suffisamment d'argent, ou alors, tiens, maintenant les enfants sont partis. Il y a plein de projets, et c'est normal. C'est horrible de ne pas en avoir. Et l'âge ne devrait pas être un obstacle au projet. Quand les gens cessent d'avoir des projets, eh bien, en général, ils n'aiment plus la vie sur Terre. Et si vous n'en avez pas pour vous-même, eh bien, participez au projet de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, quand on a des projets, eh bien, soumettons-les au Seigneur. Et la Bible nous dit aussi que dans ces cas-là, eh bien, quand on soumet nos projets au Seigneur, alors c'est là qu'ils réussissent. Et ça se fait. Les opportunités sont là, les circonstances sont là. Bien évidemment, le dessein de Dieu vient avant le projet, le plan. Je répète, le dessein de Dieu est plus important que les plans, parce que les plans peuvent changer. Oh là là, alors là, ce qui motive Dieu, c'est son dessein, pas nos plans. Vous savez, quelquefois, moi, par exemple, dans le ministère, je ne sais pas ce que vous entendez, vous, dans votre catégorie professionnelle, mais en ce qui me concerne, quelquefois, j'entends les gens parler de « mon ministère, j'ai un ministère, mon ministère !» Non mais, tu brilles là. Dans le plan de Dieu, on parle de quoi? C'est quoi ça? On parle du dessein de Dieu. Et n'oublions pas, nous sommes tous invités, tels que nous sommes. Je vous le lis simplement, Proverbe 16, verset 3, « Expose ton action au Seigneur et tes plans réussiront, se réaliseront. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. » C'est-à-dire maintenant, eh bien, consultons l'Éternel. Et ce que tu feras plus tard, se réalisera. Matthieu 16, 25 nous dit, simplement, à moins que tu puisses le mettre au Matthieu 16, 25, et on va comprendre pourquoi. Sinon, je peux le lire, sinon ici. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire, si on s'acharne à ne pas tenir compte du grand dessein de Dieu, parce qu'on veut garder notre manière de faire, le Seigneur dit, eh bien, on perdra. On perdra quoi? Ça ne veut pas dire qu'on mourra. Vous avez des tas de gens qui sont complètement, même dans le monde, et ils sont toujours vivants. Mais cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire la raison pour laquelle on ne connaîtra jamais la raison pour laquelle on est né. Et si quelqu'un ne sait pas pourquoi il est né, eh bien, il ne cherchera pas à savoir ce qui est en lui. Il ne cherchera pas à connaître ses capacités. Et puis, vous savez, quelquefois, on développe un don, alors que c'est un don qui devrait passer en second, parce qu'il y en a, il y en a un qui est beaucoup plus important. Et la Bible nous dit que notre vie est cachée en Christ. Donc, cette année, moi, je vous invite à la communion, à une vraie communion avec Dieu. Je vous invite à garder de vue la grande image et à dire, Seigneur, montre-moi encore plus les dons qui sont en moi. Montre-moi où je me situe dans ton plan pour ma génération. Montre-moi où je me situe dans ton plan pour cette église. Montre-moi où je me situe dans ton plan vis-à-vis de la France ou de la planète. Et j'espère que vous viendrez au Weekend Studio maintenant. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais la bonne nouvelle, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et je ne peux que vous encourager à consulter le Seigneur. Voilà, très bien, il y a ce livre-là, je m'en rappelle, Le Grand Dessein. Et c'est un livre qui est très facile, hein, il est très vite lu, facile, mais il est important. Nous les chrétiens, vous savez, quelquefois on passe du temps à prêcher sur la définition d'un arbre. Et alors on a prêché sur la couleur des feuilles, on a prêché sur la forme des feuilles, on a prêché sur l'âge de l'arbre, sur la terre dans laquelle il pousse, et on oublie qu'il y a tout un univers. Donc en ce début d'année, eh bien, prenons du recul. Alors est-ce que, j'espère que c'est clair, est-ce que Dieu se repent? Ben, ça dépend de quoi? De son grand dessein? Ah non. Ah non, il ne le fera pas. Mais en revanche, quelquefois, il est obligé de changer ses plans de manière à arriver à l'accomplissement de son objectif ultime. Donc cette invitation, eh bien, de sa part, je vous la lance à chacun et je vous encourage à connaître ce Dieu merveilleux. Et à dire, Seigneur, où je me situe là? Alors, je vais finir avec cela pour ce message. Ce culte est le premier culte de l'année. Vous avez été avertis, il est un petit peu différent. D'ailleurs, vous sentez que l'atmosphère est un peu différente. Mais je vais imposer les mains. Je vais imposer les mains et on va le faire comme je l'ai vu dans mon cœur. Et ensuite, pour ceux qui veulent, alors, tous les ans, je vous encourage à mettre vos désirs à cœur. Parce que la seule manière de savoir si Dieu, ce que Dieu a fait dans notre vie, bah, c'est un petit peu de mettre des mots, c'est aussi de le quantifier. On ne peut pas savoir si ce que Dieu a fait dans notre vie si on ne lui a rien dit de faire. Or, le Seigneur travaille avec des plans, des projets. Et la Bible nous dit de les soumettre. Donc, si vous voulez prendre un petit peu de temps, à moins que vous l'ayez déjà fait, mais pour ceux qui le souhaitent, il y a différentes catégories. Ce qui appartient, c'est ce qui est spirituel. Ensuite, famille, c'est-à-dire couple, enfant. Ensuite, travail au ministère. La catégorie des finances. La catégorie de la santé. Et la catégorie des loisirs. Et là, vous pourrez écrire dans chaque colonne, ce que vous voudriez que Dieu fasse pour vous dans chacun de ces domaines. Et évidemment, la feuille, vous la gardez, c'est entre vous et Dieu. Hein. Donc, surtout, la ramenez pas ici. Et puis, c'est ainsi que l'on voit, au fur et à mesure hein, que l'année progresse, on reprend cette liste et on dit, Seigneur, tiens, est-ce que tu te rappelles, j'avais marqué cela. Et puis, au fur et à mesure que l'année progresse, on raille, on dit, oh, alors là, Seigneur, tu l'as fait. Qui a déjà procédé de la sorte? et on peut dire c'est une vraie bénédiction. Et à la fin de l'année, on reprend et on peut voir que Dieu a travaillé avec des projets, et très souvent, ce sont des projets qui sont venus de lui. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous pouvez faire confiance à ce qui est dans votre cœur. Et c'est parce qu'on ne fait pas confiance à ce qui est dans notre cœur qu'on va avec ce qui est de notre âme. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais appeler l'équipe pastorale et puis à venir ici. Et ensuite, l'équipe pastorale va prier pour les personnes qui travaillent avec eux. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment de beau. Anna, est-ce que je peux avoir te demander de jouer peut-être? Et ensuite, nous prendrons la Sainte Cène. Alors, en ce qui concerne l'onction, hein, je vais vous lire quelque chose, il est dit dans 1 Jean 2, 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Donc, on a tous, quand on a accepté Jésus, eh bien, on a tous reçu l'onction. C'est la capacité que le Saint-Esprit donne de le connaître. Et ça, c'est la caractéristique de la nouvelle alliance, c'est qu'on peut tous connaître Dieu. Mais ensuite, il y a... Pascal, tu veux venir, s'il te plaît ? Ensuite, il y a l'onction pour servir. Et cette onction pour servir... Eh bien, c'est une onction, vous avez pu voir, lire dans la parole, qui peut changer quelqu'un. Littéralement, le but de cette onction, c'est qu'elle change quelqu'un et le rende capable de faire ce qu'il doit faire. En ce qui concerne cette année, eh bien, bien sûr, le bâtiment. Le bâtiment, il est devant nous, on est dans le processus de la négociation pour ce que l'on a vu. Et la bonne nouvelle, c'est que, vous savez, il y a quelqu'un qui était venu dans l'église parce qu'il y a un couple qui avait passé quelques mois, je crois, en France. Et ils avaient entendu parler de notre église à travers Andrew Womack. Je crois que c'était la même chose pour vous aussi. Hein. Et ce couple-là, du Canada, eh bien, on est resté en contact. Et dernièrement, eh bien, la dame qui, depuis d'ailleurs, soutient, le couple soutient cette église, a dit, voilà, eh bien, j'attends une somme et je voudrais donner la dîme. Elle a reçu une partie et elle a donné une dîme. Gloire à Dieu, on a 5000 euros en plus sur le compte du bâtiment. Donc, c'est en train de venir, ça c'est énorme. Cette année, je veux mettre l'accent, tout le monde devrait participer à un groupe de connexion. Ce n'est pas juste un groupe de maison, c'est un groupe de connexion parce qu'on connecte les uns avec les autres. Un groupe de connexion peut avoir lieu entre midi et deux dans un café. Mais l'idée, c'est de connecter et de partager ensemble la bonté de Dieu. Parce que pourquoi ? Ben, tout simplement, en tant que pasteur, je ne peux pas être connecté avec tout le monde. C'est juste une réalité. Plus l'Église grandit, ben, moins je vais être connecté avec les gens. Néanmoins, on doit tous être connectés avec quelqu'un. Hein? Donc, les groupes de maison et puis en plus les partages que l'on a, franchement, c'est délicieux. Hein? Qui appartient à un groupe de connexion? Qui peut dire c'est vraiment extra ce qui se passe? Ah oui, hein? On a franchement, vous ne trouvez pas qu'on a de bons moments? Dans le groupe de connexion, on entend des choses, il y a les expériences des uns, les témoignages des autres, c'est magnifique. Et on grandit énormément dans ces groupes. Donc ça, et il va y avoir des thèmes qui vont être abordés comme, ben, je vous l'ai déjà annoncé, s'entendre, comment s'entendre avec les gens. Autre chose qui va être, c'est par exemple pour les personnes dites seniors. Alors, bon, le truc c'est... Chacun est seigneur à sa manière, parce que selon la définition du seigneur, je pense que j'y suis moi aussi. Après, c'est dans la tête, exactement. Mais néanmoins, il y a des besoins qui change. Et le Seigneur a pourvu. Donc il va y avoir un groupe pour les seniors. Il y a déjà une grande partie de l'enseignement qui est fait. Il va y avoir un groupe également pour les couples. Et ça va être des thèmes qui vont être abordés sur 5, 6, 7 semaines. Donc ça va être quelque chose de rapide. Une fois qu'on a terminé l'enseignement de Andrew Mack, eh bien on va passer à ce genre de choses. Et on est en train de mettre sur pied. Hein. Mais en tout cas, c'est pour vous donner une idée. Un groupe avec les jeunes. Il y a, là aussi, je suis en train de penser à des enseignements. Donc, c'est pas juste, ouais, tiens, on va voir les uns. Non, 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 vous allez être édifiés. Édifiés. Cela, et puis, on a amorcé, vous avez entendu par exemple que je voudrais que l'on ait une maison de retraite. Et puis, il se trouve qu'il y avait le frère de Florence qui, avec sa famille, est venu pour passer les fêtes. Et à un moment, eh bien, j'ai entendu, je l'avais peut-être entendu avant, mais en tout cas, ça, cette fois-ci, ça a résonné, qu'il sait comment aider les personnes âgées. Mais vraiment, le gars, il est pointu, quoi. Ça a été un délice de parler avec lui. Et il a dit, tu sais, plutôt que de commencer par une maison de retraite, tu peux commencer par... un foyer de jour ou mais c'est deux jours et là on peut apprendre aux personnes âgées la prévention des chutes, on peut leur apprendre à développer leur mémoire et à identifier tous les mensonges, on peut leur apprendre des tas de choses et je me suis dit mais avec ce bâtiment là on peut le faire pendant la journée, on peut le faire. C'était extraordinaire, je bouillais, je me dis ça y est, je sais comment on peut être une bénédiction et en plus comment on peut travailler avec la mairie sur un sujet comme cela. Et puis j'ai une idée pour peut-être un camp de jeunes, on va voir, peut-être un camp de jeunes cet été. Donc c'est pour vous dire, il y a des tas de choses, ces murs ne peuvent pas nous retenir. Mais ce que je sais dans mon cœur, c'est que le Seigneur veut ajouter quelque chose qui est nécessaire à chacun d'entre nous. De manière à ce qu'on le fasse en avançant vers son dessein et que l'on comprenne le plan dans lequel on est. Vous comprenez? Donc l'onction, elle est là pour cela. Voulez-vous mettre dans ce sens-là? J'aimerais que tout le monde se lève et exerce sa foi avec nous en même temps. Parce que c'est un moment qui est sacré. Alors on peut être une fois ointe dans sa vie, on peut être une autre fois à différents moments.